VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 29 septembre 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
La présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, a quitté New York pour Bangui, où une nouvelle flambée de violences intercommunautaires a fait des victimes.
MINUSCA dément avoir tiré dans la foulière à Bangui et le Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis condamnent la violence et réaffirment leur soutien à Samba Panza et à la transition en République centrafricaine.
Au Burkina Faso, le désarmement du RSP est dans l'impasse.
En Côte d'Ivoire, les leaders de l'opposition ont manifesté hier pour réclamer la dissolution de la commission électorale indépendante.
Intervention remarquée des présidents Obama et Poutine sur la Syrie et face à face en marge de l'Assemblée générale de l'ONU hier à New York.
Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco, ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba Panza, a coupé court à sa visite à New York où elle assistait à l'Assemblée générale de l'ONU pour rentrer dans son pays où, selon des dépêches datées de Bangui, des dizaines de personnes ont été tuées ces trois derniers jours dans des accrochages entre chrétiens et musulmans suite à la mort d'un musulman. Hier soir, des centaines de prisonniers se sont évadés de la prison centrale de Bangui et plus tôt dans la journée, au moins trois personnes ont été tuées quand des protestataires se sont rassemblés au centre-ville dans une tentative de descendre sur le palais présidentiel. Ils ont accusé les casques bleus de la MINUSCA d'avoir tiré dans la foule. Ce qu'ont démenti les casques bleus défendant le palais présidentiel dans un communiqué transmis à l'AFP à Libreville. Eric Manirakiza.
Dans un communiqué, la mission des Nations Unies en Centrafrique nie que les casques bleus ont ouvert le feu sur les populations. Mais la MINUSCA se dit préoccupée par de telles allégations et promet de procéder à des vérifications. Une source hospitalière, sous couvert de l'anonymat, avait indiqué que trois manifestants ont été tués par des tirs de casques bleus chargés de la protection du palais présidentiel. D'autres personnes ont affirmé qu'il y a eu 6 morts. Hier, des manifestants s'étaient dirigés vers la présidence en réclamant la démission de la présidente de transition, Catherine Samba Panza. L'assassinat d'un conducteur musulman de mototaxi égorgé dans le quartier PK5 de Bangui a servi de détonateur à cette nouvelle vague de violence intercommunautaire. Les attaques se sont étendues aux quartiers limitrophes, faisant plus de 20 morts et une centaine de blessés.
Avant de quitter New York, Mme Samba Panza s'était adressée à son peuple dans une allocution dont nous vous présentons un extrait.
J'appelle tous les protagonistes de cette énième nouvelle crise de tous les bords à la retenue et au respect des engagements pris devant l'opinion nationale et internationale lors du Forum national de Bangui, afin d'accorder la primauté au dialogue et à la réconciliation. J'en appelle aussi au patriotisme des forces vives de la nation de s'impliquer sincèrement dans la recherche de la paix et dans le maintien de la cohésion intercommunautaire en évitant à tout prix de jeter l'huile sur le feu. Je réitère encore à cette occasion ma ferme volonté de conduire le pays vers des élections apaisées, démocratiques et incontestables en vue du retour à l'ordre constitutionnel que tous les Centrafricains attendent avec impatience en s'inscrivant massivement sur les listes électorales.
Ajoutons que, selon des sources contactées par VOA Afrique, le chef de la mission de l'ONU en République centrafricaine, Parfait Anyanga Onyanga, accompagne Mme Samba Panza. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur profonde préoccupation devant la flambée de violence de ces derniers jours à Bangui et ils ont appelé à une fin rapide d'une telle violence. Henri Francisque.
Ils ont fermement condamné ces violences, y compris toutes les attaques contre les civils, la violence intercommunautaire, ainsi que les attaques contre le personnel humanitaire. Et ils ont rappelé que les responsables répondront de leurs actes devant la justice. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré son appel à toutes les milices et aux groupes armés pour qu'ils déposent les armes et cessent toute forme de violence et activité de déstabilisation immédiatement. De leur côté, les États-Unis ont condamné les troubles en RCA et réaffirmé leur soutien au gouvernement de Mme Samba Panza. Pour citer le porte-parole du département d'État John Kirby, Washington appuie pleinement les efforts des forces centrafricaines et internationales pour établir l'ordre et traduire en justice les coupables. Pour sa part, le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Alioune Tine, a déclaré que la violence meurtrière dans la capitale montre que la RCA reste dans un état très fragile et qu'une action immédiate doit être prise pour renforcer les capacités des casques bleus pour détecter et répondre efficacement à de tels incidents avant qu'ils ne dégénèrent en attaque contre les civils. Selon Amnesty International, les civils ont commencé à fuir Bangui et les bureaux d'au moins 3 agents caritatives ont été pillées.
Au Burkina Faso, le désarmement du RSP est dans l'impasse. Telle est la substance d'un communiqué de l'état-major général des armées du pays. De son côté, le gouvernement accuse les officiers généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé d'être en relation étroite avec des djihadistes. Tout cela a fait monter hier au créneau les OSC, organisations de la société civile, pour une résistance active de Ouagadougou Zoumana Wonogo.
Cette énième crise semble jouer avec les nerfs des Burkinabés. Dans son schéma, un pas en avant, deux pas en arrière. Écoutons ce qu'en dit le député Aboubakar Balima.
Franchement, on peut dire qu'il y a des non-dits dans cette situation. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'à l'heure où nous sommes, le général Dingéré n'est pas arrêté. Deuxièmement, nous ne pouvons pas comprendre qu'un travail qui a été commandité par la communauté internationale, la CEDEAO, qui disent de faire un travail, et nous nous voyons encore aujourd'hui dans cette même situation, le non-désarmement du RSP.
Le syndicat des commerçants, pour sa part, lance cet appel par la voix de Roch Nagalou, son secrétaire général.
Nous interpellons le RSP, particulièrement Djendjéré. Un Burkinabé ne peut pas verser le sang des Burkinabés. Toujours nous lui lançons un appel de déposer les armes et de ne pas laisser verser le sang de ses compatriotes. Et nous lançons un appel au gouvernement. Qu'à partir de maintenant, nous n'allons pas quitter cette place de la nation tant qu'ils ne vont pas trouver une solution définitive à cette affaire.
Le programme de camper à la place de la Révolution jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée a été perturbé par la grosse pluie qui s'est abattue sur la capitale burkinabé, laissant alors la place aux négociateurs du Faso qui ont pris leur bâton de pèlerin pour concilier les positions. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est demain que l'islamiste malien Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi doit comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il est soupçonné d'avoir organisé en 2012 la destruction de 9 mausolées et de la grande mosquée Sidi Yahya à Tombouctou pendant l'occupation du nord malien par les djihadistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Revenons à présent sur les grands points qui ont marqué hier l'Assemblée générale de l'ONU, dont le discours du président Barack Obama, avec notre envoyé spécial à New York, Tatiana Mosso.
C'est dans un désordre maîtrisé que la 70e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte, avec un peu de retard. C'est d'abord la présidente brésilienne Dilma Rousseff qui a été la première à prendre la parole, suivie ensuite d'un discours forcément très attendu du président américain. Dans la salle quasi comble de l'Assemblée générale, Barack Obama, dans une aisance impeccable, ses mots ont été implacables, évoquant la guerre en Syrie, puis l'annexion russe en Ukraine. Plus tôt dans la matinée, c'est le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui exhortait les pays européens à faire plus de place en faveur des centaines de milliers de migrants et réfugiés qui affluent vers l'Europe. Outre la Syrie, il s'agit aussi pour les leaders du monde d'aborder les questions de l'environnement et ainsi que de la bonne gouvernance. Le continent africain n'est pas en reste avec les sujets d'actualité. Entre crise politique et menace terroriste, cette 70e session est aussi largement consacré à l'avenir de la jeunesse africaine. Autre événement, une réunion de haut niveau entre le président Obama et le secrétaire général de l'ONU concernant les soldats de la paix, alors que Barack Obama a annoncé vouloir contribuer davantage aux missions de maintien de la paix.
Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à New York. Et nous terminons dans l'espace avec la NASA qui a indiqué hier avoir des preuves confirmant la présence d'eau liquide actuellement sur la planète Mars. De nouvelles données obtenues par des chercheurs français et américains appuient cette thèse de l'existence de l'eau sur la planète rouge. Les précisions de Dilly Dico.
Il s'agit là d'une percée scientifique majeure prouvant l'existence de l'eau sous forme de ruisseaux de saumure sur Mars. De curieuses lignes sur les pentes de la planète rouge constitueraient des ruisseaux contenant une solution aqueuse saturée en sel. Ces lignes d'environ quelques centaines de mètres de long sur 5 mètres de large ne sont visibles que pendant les saisons chaudes. Elles s'allongent puis disparaissent lorsque les températures chutent. Des chercheurs ont conclu, dans leurs travaux publiés dans la revue britannique Nature Géosciences, du sérieux de ces résultats obtenus à l'aide d'images fournies par des observations de la NASA. Les recherches qui ont précédé cette découverte montrent qu'il y a eu de l'eau en abondance sur Mars et qu'elle existe encore sous forme solide dans la glace souterraine.
Et maintenant, la Minute Éco avec Anastasie Toudièche.
France, aide publique au développement, plus 4 milliards. La France a décidé d'augmenter le niveau d'aide publique au développement pour dégager 4 milliards d'euros à partir de 2020, a annoncé François Hollande le 27 septembre dernier. Le président français n'a toutefois pas précisé comment ni quand il comptait répartir cette aide. La France consacre 0,36% de son PIB à la lutte contre les inégalités économiques et sociales, soit deux fois moins que l'objectif fixé aux pays développés. La Chine lance un fonds d'aide au développement. Le 25 septembre, lors de sa toute première allocution aux Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a annoncé la création d'un fonds chinois destiné à réduire les inégalités économiques et sociales doté de 2 milliards de dollars. La Chine est régulièrement critiquée pour son manque d'implication dans les pays défavorisés. Heineken et CFAO à la conquête de la Côte d'Ivoire. Déjà fructueuse en République démocratique du Congo depuis 20 ans, l'association entre les brasseurs français et néerlandais CFAO et Heineken se poursuit en Côte d'Ivoire sous le nom Brassivoire. Située dans la nouvelle zone industrielle PK24, l'usine Brassivoire devrait créer 700 emplois et produire 1,6 million d'hectolitres de bière par an dès début 2017.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Afro-basket féminin 2015 à Yaoundé.
L'Égypte a créé la plus grosse surprise de ce tournoi avec sa victoire 53-52 sur l'Angola, champion en titre. De son côté, la Guinée s'est imposée 67-66 contre les Algériennes. Victoire de l'Ouganda 55-43 contre l'Afrique du Sud. Belle performance également des Maliennes qui dominent 57-52 le Mozambique. Victoire également du Gabon contre le Cameroun 67-56.
Un nouveau président pour la FECAFOOT.
La Fédération Camerounaise de Football a enfin un nouveau président, plus de deux ans après des élections annulées pour un conflit entre les autorités locales, des membres de la FECAFOOT et la FIFA. Sidiki Tombi Aroko a été largement élu hier, avec 59 voix sur 73. Il a largement devancé Robert Atta, le seul des cinq autres postulants dont le dossier de candidature avait été validé par la commission électorale. Sidiki Tombi Aroko, ex-secrétaire général de la FECAFOOT, succède à Mohamed Dia, patron de la fédération de 2000 à 2013, condamné à 15 ans de prison pour détournement de fonds.
Sepp Blatter s'accroche malgré la tempête.
Le président démissionnaire de la Fédération internationale de football a réaffirmé qu'il resterait à la tête de la FIFA jusqu'à l'élection de son successeur en février prochain. Le Suisse, visé par une procédure pénale, a par ailleurs assuré qu'un virement de 2 millions de francs suisses effectué en faveur de Michel Platini en 2011 était tout à fait légal. Je vous rappelle que le FIFA Gate avait éclaté le 27 mai dernier à Zurich suite à l'arrestation de plusieurs personnalités du football à la demande de la justice américaine. La justice suisse avait dans la foulée annoncé avoir ouvert une enquête concernant les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Respectivement à la Russie et au Qatar.
Drogba en forme.
7 buts en 6 matchs, Didier Drogba semble se balader en MLS. Auteur d'un doublé samedi, l'Ivoirien a offert la victoire à l'Impact de Montréal lors de la venue de DC United. Un succès 2-0 qui conforte la 6e place de la conférence Est pour le club canadien, synonyme de qualification pour les playoffs.
Fera-t-on du surf, du baseball ou de l'escalade au JO de Tokyo en 2020?
Ou alors du roller ou encore du karaté? Voilà, Idrissa, les 5 sports proposés hier par les organisateurs nippons pour les prochains Jeux Olympiques. Le comité international annoncera son verdict lors de sa prochaine assemblée générale avant les Jeux Olympiques de Rio qui se dérouleront en août prochain. De sa liste initiale, le comité olympique japonais a donc éliminé le bowling, le squash et le wushu, un art martial chinois.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, les leaders de l'opposition ont manifesté hier pour appeler à la dissolution de la commission électorale indépendante. Les adversaires du président sortant, Alassane Ouattara, ont aussi réclamé un accès équitable aux médias publics. Après la manifestation, Jean-Roger Bion a joint le député Kwadio Conan Bertin, candidat à la présidentielle et membre de la coalition nationale pour le changement.
Nous sommes sortis pour dire à Ouattara qu'il est encore temps que nous puissions nous asseoir pour dégager des conditions qui puissent nous amener à des élections apaisées. Il faut donc que les conditions démocratiques et consensuelles soient mises en place pour que chaque candidat s'engage à respecter le verdict des urnes, pour éviter à la Côte d'Ivoire un autre chaos de trop.
Qu'est-ce qui, selon vous, ne marche pas aujourd'hui alors que nous sommes à moins d'un mois des élections?
On n'a pas pris la peine de créer les conditions d'élection justes et transparentes parce que simplement, la CEI n'est pas indépendante. C'est une commission aux ordres d'un candidat, Alassane Ouattara. Dans ces conditions-là, rien ne peut marcher.
Est-ce que vous voulez dire que si les conditions ne sont pas réunies selon vos critères, il n'y aura pas des élections?
Il n'y en aura pas pour nous, comme il n'y en aura pas pour Ouattara lui-même. Le sang a trop coulé. Les Ivoiriens ne veulent plus une élection avec mort. Nous sommes sortis pour appeler M. Ouattara à la table de discussion autour des conditions de l'élection à venir. En clair, s'il continue d'afficher du mépris pour nos revendications, s'il continue de jouer la sourde oreille, il va de soi que nous avons commencé aujourd'hui, nous n'arrêterons plus jamais jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Ou bien il y a des élections, alors transparentes pour tous, où il n'y en a pas et il n'y en aura pas pour tout le monde.
Alors la CNC aujourd'hui, il regroupe qui et qui?
La marche a été initiée par les candidats issus de la CNC, donc Charles Konambani, Koulibaly Mamadou et moi-même, Kwadio Conan Bertin. Nous avons été rejoints par deux autres candidats, un député, Nyabo Kaku, et un autre qui était lui-même déjà ancien candidat en 2010, M. Kwadio Conan Siméon. Ça fait cinq candidats qui ont décidé de parler le même langage autour de la CNC, composé donc de partis politiques comme Leader et le FPI, tendance Laurent Gbagbo. Il faut appeler un chat un chat. Nous espérons qu'en chemin, les autres candidats, les cinq autres candidats, comprennent la nécessité que nous avions au dialogue et qu'on s'asseye pour éviter encore à la Côte d'Ivoire un bain de sang.
Kakabé, si on vous reprochait de vouloir créer le désordre parce que vous sentez une débâcle, parce que M. Ouattara est favori?
Si les règles de jeu sont respectés, si nous avons des élections justes et transparentes, s'il n'y a pas de violence, Ouattara ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire.
Kwadio Conan Bertin, dit Kakabé, candidat à la présidentielle ivoirienne et membre de la coalition nationale pour le changement, CNC.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Exercice militaire conjoint entre les États-Unis et le Mali, c'était hier à Bamako. Cet exercice a été fait par 20 Marines avec des éléments du 33e régiment des parachutistes maliens, communément appelé là-bas les Bérets Rouges. La cérémonie, présidée par les autorités maliennes et américaines, a vu l'atterrissage et le décollage avec des personnalités de deux avions américains. Le reste de l'exercice s'est passé entre soldats maliens et américains, nous dit Kassim Traoré.
Terrain d'exercice du 33e régiment des parachutistes maliens à Bamako, les officiels sont accueillis par le lieutenant-colonel Douglas Brock, attaché de défense de l'ambassade des États-Unis au Mali et le commandant du 33e régiment des parachutistes maliens.
Les marines sont ici pour la formation avec FAMA. La coopération est très bonne. La formation est l'exemple pour notre programme entre notre pays.
Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Youssouf Traoré. Je commande le 33e régiment des commandos parachutistes. L'exercice auquel vous allez assister va consister à l'intervention sur différents cas de blessures. Blessures à la jambe, blessures à la poitrine, blessures au bras.
L'exercice d'entraînement spécial vise à améliorer la capacité collective à fournir des services de secours en cas de catastrophe et d'urgence médicale.
My name is Major Roy Dray.
Mon nom est Major Roy Dray, assistant opérateur pour les marines qui sont basés en Espagne. Nous sommes une force de réponse en cas de crise, ce qui veut dire que s'il y a des urgences en Afrique, nous pouvons apporter. Amener les marines pour aider le pays. Cette même unité a aidé il n'y a pas très longtemps dans le cas du virus Ebola Libéria. Notre mission est d'assister et en cas de catastrophe et en cas de sécurité également d'intervenir.
C'est à bord des deux avions que les 20 marines sont arrivés à Bamako en provenance de Dakar. Ils ont embarqué une partie des officiels de la cérémonie du jour pour survoler le ciel bamakois en 20 minutes. Le ministre de la promotion des investissements du Mali représentait le gouvernement malien, Maître Mamadou Gaussou Diarra.
Je me dis, ça participe vraiment dans le processus de reconstruction de notre armée qui est le souhait de notre peuple. Dire que nous avons aux États-Unis d'Amérique des alliés sûrs sur lesquels nous pouvons compter. C'est une technologie de dernière génération et les hélicos à la même temps qui sont aussi des avions. Dans des circonstances particulières, c'est une solution qui peut s'avérer assez efficace, notamment en situation de détresse, lorsque vous avez une catastrophe ou une situation où vous devez venir en aide à des populations en danger.
Paul Wolfs, l'ambassadeur des États-Unis au Mali, était aussi de la partie.
Nous avons utilisé deux avions qui s'appellent Osprey, et les Osprey sont spécialistes pour aider dans les catastrophes naturelles. Cet avion peut voler comme un avion, mais atterrir comme un hélicoptère.
Les États-Unis faisaient des exercices de ce genre au Mali, mais c'est avec le coup d'État du 22 mars 2012 qu'il y a eu un arrêt. On peut dire que c'est parti pour une reprise de partenariat militaire entre Maliens et Américains. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Maintenant, le témoignage d'un Malien résident à Djeddah. Les autorités saoudiennes n'ont toujours pas fourni un décompte par nationalité des victimes de la bousculade de jeudi dernier qui a fait 769 morts et 934 blessés à Mina, près de la Mecque. Le Mali a décrété un deuil national de 3 jours suite à la mort de dizaines de pèlerins maliens. Il y a encore de nombreux Maliens qui sont portés disparus. Idriss Fall a recueilli la réaction de Daouda Doumbia, le Malien habitant à Djeddah.
Jusque là où nous sommes, les autorités à présent n'ont pas été capables de nous donner des chiffres exacts sur le drame. Le contexte est très très difficile dans la mesure où il y a beaucoup d'agences non contrôlées. Alors là, c'est très très difficile d'en savoir dans l'immédiat.
Et qu'est-ce que vous appelez agences non contrôlées?
Vous savez que dans les différents pays, les opérations d'irrigation ont été privatisées. Avant, tout était centralisé par le gouvernement. Au Mali, il y a une prolifération d'agences, de petites agences qui se regroupent par-ci, par-là, en fait, qui ne sont même pas voyagistes de profession. Ça crée des difficultés dans le cas de ce genre.
Mais quand ils arrivent en Arabie Saoudite, on nous disait qu'ils portent un badge qui permet de les identifier au moins.
Effectivement, ici à Mina, on a pris soin de faire une répartition géographique des campements. Les Africains, ils sont dans un même lieu, les Européens dans un même lieu, ainsi de suite par continent. Sur les badges, il y a l'adresse et l'adresse du campement. Supposons, par exemple, quand on rencontre un pèlerin égaré, facilement, on peut l'amener dans son campement. Avec cette horde dans ce drame, pratiquement, c'est très très difficile. Bon, parce que non seulement il y a certains pèlerins qui ne portent pas le badge, même qu'ils portent le badge, ils sont disséminés dans les hôpitaux où ça doit être les responsables d'agences ou de consulats qui doivent les retrouver. Le consulat du Mali, il faut le reconnaître, ils sont à pied d'œuvre. J'ai signalé le dynamisme du consul qui est complètement débordé.
Donc au moment où nous nous parlons, on ne sait pas combien de Maliens sont morts ou encore portés disparus alors.
Jusque-là, ils sont entrés. Il y a des chiffres qui sont publiés par-ci, par-là. Mais personnellement, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres-là. Parce qu'en fouillant sur le site officiel de l'Arabie Saoudite ici, je n'ai vu aucun chiffre publié conforme aux chiffres véhiculés présentement sur le net et censé venir du gouvernement malien.
Et l'Arabie Saoudite, il n'y a pas eu quand même des insuffisances dans l'organisation? 2 millions de personnes, des bousculades récurrentes?
Tout à fait. Vous savez, ce n'est pas facile. Une vallée de Mina qui doit contenir 2 millions de pèlerins. Malgré les infrastructures, la difficulté surtout réside dans l'organisation pratique. Et indépendamment de cela aussi, le contexte ne permet pas directement de situer d'abord comment ça s'est passé. Nous n'en sommes pas à un premier drame. Dans les années passées, il y en a déjà eu beaucoup, mais ça, c'est le plus grave à mon avis.
Daouda Doumbia, un Malien résident à Djeddah, en Arabie Saoudite.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Nous Nous revenons maintenant avec notre envoyé spécial à New York, Tatiana Mosso, sur la journée d'hier à l'Assemblée générale de l'ONU et en marge de celle-ci, avec les interventions et le tête-à-tête entre le président Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine.
Nous ne souhaitons pas un retour à la guerre froide avec la Russie, a précisé le président américain à la tribune de l'ONU, où son homologue Vladimir Poutine lui a succédé plus tard, avec une réponse ferme mais pas inédite. Ce tête-à-tête, c'est le tête-à-tête de la semaine. Vladimir Poutine qui s'est imposé au cœur des débats sur la Syrie et Barack Obama en quête d'une stratégie pour aborder l'épineux dossier syrien. Écoutez Barack Obama.
When a dictator slaughters tens of thousands of his own people,
quand un dictateur massacre des dizaines de milliers de ses propres citoyens, il ne s'agit plus d'affaires internes d'un seul pays. Cela crée des souffrances humaines d'une ampleur qui nous affecte tous. Quand un groupe terroriste décapite des otages, massacre des innocents, c'est un assaut contre toute l'humanité. Il n'y aura plus d'abri, d'abri sûr, dit Barack Obama, pour les terroristes qui commettent de tels crimes.
Barack Obama a dénoncé en référence à la position de Moscou le soutien de certains pays au président syrien Bachar al-Assad, qu'il a qualifié de tyran qui massacre des enfants innocents. Pour autant, le président américain s'est dit prêt à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit syrien. Autre point fort, la levée de l'embargo sur Cuba. Le président américain, écoutez-le.
For 50 years, the United States pursued a Cuba policy that failed to improve the lives of the Cuban people.
Pendant 50 ans, les États-Unis ont pratiqué une politique vis-à-vis de Cuba qui n'a pas contribué à améliorer la vie du peuple cubain. Nous avons changé cette situation. Nous avons encore des désaccords avec le gouvernement cubain sur la question des droits humains, par exemple, mais nous continuerons à discuter de ces questions à travers les canaux diplomatiques.
Barack Obama semblait ainsi s'adresser directement aux membres du Congrès, appelant à la levée de l'embargo américain contre Cuba, ajoutant bien sûr que les États-Unis continueraient de défendre les droits de l'homme à Cuba au moyen des relations diplomatiques, commerciales et humaines. Entre critique et encouragement, le président américain a soufflé le chaud et le froid dans son discours, aussi bien en parlant de son pays qu'en évoquant le rôle de la communauté internationale ou encore les pays forts qui n'aident pas assez les plus faibles. Un discours aussi qui pourrait être entendu par les sociétés civiles, notamment africaines, qui défendent les institutions et les citoyens. C'était certainement là un clin d'œil aux récents événements qui ont secoué le Burkina Faso.
Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à New York.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
I'm 14 carats, I'm 14 carats, doing it up like my eyes. You say I got a touch, so good, so good. Make you never wanna leave, so don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real, real nice. And syncopate my skin to your heart beating. Cause I just wanna look good for you, uh-huh. I just wanna look good. Show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. You still look good for you, good for you. I'm in my marquee diamonds, I'm a marquee diamond. Could even make that Tiffany jealous. You say I give it to you hard. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair grow real nice. And sink up in my skin to how you're breathing. Cause I just wanna look good for you, good for you. Uh-huh.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sebugia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.